Europe 1, il est midi.
Europe Midi, Raphaël Delvolvé.
Bonjour à tous. Le gouvernement rattrapé par la sécheresse. Elle touche tout le territoire et devrait durer encore plusieurs jours. La cellule de crise interministérielle est activée. Elle est réunie en ce moment autour de la Première ministre. Nous en parlerons avec nos débatteurs du jour. Guillaume Vuittet, député Renaissance, et Amine Elbaï, porte-parole du parti Les Républicains. Cette sécheresse touche nos agriculteurs, en particulier contraints à des restrictions d'eau dans leurs exploitations. Reportage dans quelques instants. Et puis, c'est également au programme d'Europe Midi les premiers mots de Patrick Balkany. Il est sorti de prison ce matin. Les manœuvres chinoises continuent et inquiètent autour de Taïwan. Et puis, le football et le retour de la Ligue 1 ce soir. Lyon-Ajaccio en ouverture. À vivre, évidemment, sur Europe 1. Bienvenue à tous.
Europe 1.
C'est une situation historique, la plus grave sécheresse jamais enregistrée en France. Les mots de la Première ministre ce matin, Elisabeth Borne active la cellule interministérielle de crise. Elle est réunie à la place Beauvau depuis une demi-heure maintenant. Il s'agit d'assurer le suivi précis de la situation, d'anticiper également de possibles approvisionnements en eau dans certaines communes totalement asséchées. Faute de pluie suffisante, 93 départements font l'objet de restrictions. Ça touche en particulier nos agriculteurs. Maximilien Carlier a rencontré un exploitant de Cassel dans le nord, dans la vallée de l'Isère. Il ne peut plus irriguer que 3 nuits par semaine.
Mathias a des poches sous les yeux, les traits tirés depuis une semaine à cause des restrictions. Les nuits sont courtes.
C'est dur, mais le souci c'est que cette année, il faut arroser plus souvent que d'habitude. Il y a 3 nuits par semaine qui nous sont imposées. Le problème c'est que nous on n'arrose pas quand il fait du vent. Tout est bien qu'avec le canon, l'eau part un peu dans tous les sens. Donc il faut aussi qu'on prenne ça en compte. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte pour l'arrosage.
Comme par exemple avec l'enrouleur, cet énorme tuyau de 500 mètres de long que cet agriculteur utilise pour irriguer. Il faut tout le temps être sur le qui-vive.
C'est la surveillance qui demande qu'on se lève la nuit, parce qu'il peut toujours arriver quelque chose. Sur ce type de machine, il peut y avoir une courroie qui peut casser, ou la sécurité qui ne se met pas en route, ou donc vous arrosez au même endroit. Donc en fait, vous faites pire que mieux, hein. Vous abîmez plus la culture qu'autre chose. En fait.
Et pour ses légumes, ce maraîcher prend l'eau d'un bassin qu'il a rempli cet hiver. Il lui reste de quoi irriguer une semaine, pas plus. Après, il faudra qu'il pleuve, insiste-t-il, sinon mes cultures seront grillées. Cassel, Maximilien Carlier, Europe 1.
Autre signe traduisant le caractère exceptionnel de cette sécheresse, ces cours d'eau presque à sec et empêchant nos loisirs d'été, Thibaut s'est rendu dans la Drôme sur une base nautique où les activités sont nettement réduites, voire impossibles.
Canoë-kayak retourné face contre terre, gilet de sauvetage accroché sur un montant en bois. Tout restera au sec cet été. Pas de balade de fraîcheur pour ces touristes frustrés.
Chaque année, je vois les canoës passer. Je me dis, ah non, mais c'est trop bien. Cette année, j'en fais. Et ben, il n'y a pas moyen. On ne peut pas passer. Il y a des cailloux partout. On barbote juste.
C'est dommage. Mais bon, après, vous voulez faire quoi? D'habitude, il y a quasi le double d'eau en coulant. D'habitude, on fait au moins une sortie canoë. Ouais. Au moins une les grands, une les petits.
Dans cette base nautique, seul un parcours sur 6 est encore ouvert. Alors beaucoup de voyageurs ont changé leur plan, raconte Nathalie Vernet, la propriétaire.
Des groupes, des centres aérés, des IME, et qui ne sont pas venus, qui ont annulé les séjours.
Un gouffre financier pour les comptes de l'entreprise.
En ce moment, on varie entre 6 et 14 personnes par jour. Donc là, on a une baisse de quasi 80-90% de location par jour.
Conséquence de cette période à vide, du personnel a dû être écarté pour la saison.
Donc on a mis en chômage partiel le moniteur canoë. Non, il n'était pas rentable, ouais, bien sûr.
Et s'il est déjà trop tard pour espérer une remontée de la Drôme d'ici mi-août, Nathalie Vernet n'a qu'une peur que l'année prochaine soit toujours aussi sèche. À Vercheny, près de Montélimar, Thibaut Europe 1.
Conséquence aussi sur le transport fluvial, sur le Rhin, les bateaux doivent s'alléger d'un tiers pour éviter les enfoncements, la profondeur d'eau étant trop faible. Très amaigri du corps et du visage, très affaibli dans sa démarche, Patrick Balkany a quitté la prison de Fleury-Mérogis ce matin. L'ancien maire de Levallois-Perret, condamné pour fraude fiscale, bénéficie d'une libération conditionnelle après 6 mois de détention. La presse l'attendait devant son domicile de Giverny.
Je me sens surtout soulagé. La prison, c'est très dur. J'étais isolé. C'est un enfer d'être là parce que ça hurle dans tous les sens, c'est très fatigant, on n'arrive pas à dormir. Pour un homme de mon âge, c'est difficile. Voilà.
Patrick Balkany, 73 ans, on le rappelle, libéré donc, mais pas pour autant débarrassé de ses démêlés avec la justice, Gladys Laffitte.
Et non, puisque l'ex-maire de Levallois devra à nouveau faire face à un tribunal en octobre dans le deuxième volet de cette affaire, celui du blanchiment aggravé de fraude fiscale. Il a été déclaré coupable, mais la durée de sa peine doit encore être tranchée, justement lors de cette audience, tout comme celle de son épouse Isabelle Balkany, elle aussi condamnée. Mais Patrick Balkany est aussi mis en cause dans deux autres dossiers qui lui valent deux mises en examen. La première pour détournement de fonds publics. Il est soupçonné d'avoir utilisé des chauffeurs payés par la ville à des fins personnelles. Et la seconde pour abus de biens sociaux et prise illégale d'intérêt. Une affaire qui concerne aussi d'autres protagonistes hein, sur fonds d'usage détourné de locaux appartenant à la ville de Levallois. Ces deux enquêtes sont toujours en cours. Et parallèlement, il doit rembourser sa dette au fisc français qui s'élève à 4 millions d'euros.
Merci Gladys Laffitte. L'actualité économique, le CAC 40 voit ses bénéfices bondir au premier semestre. 73 milliards d'euros, plus 24% par rapport à la même période l'an dernier. Geoffrey Branger, le conflit en Ukraine joue évidemment un rôle déterminant dans ces résultats.
Et bien du côté des matières premières et de l'énergie, par exemple, la flambée des prix a dopé les résultats des entreprises du secteur. Total Energy a réalisé les meilleurs chiffres du CAC 40 sur le semestre avec plus de 10 milliards d'euros de bénéfices, suivi par le numéro 2 mondial de la sidérurgie, ArcelorMittal, qui a profité de la hausse des prix de l'acier. Il atteint près de 8 milliards d'euros de résultats depuis le début de l'année. Autre incontournable du CAC 40, le luxe tire lui aussi son épingle du jeu malgré un ralentissement des ventes en Chine, là où les résultats sont généralement les plus importants. Les marques haut de gamme ont pu augmenter les prix sans perdre leur clientèle, qui est peu impactée par l'inflation. LVMH, Kering et L'Oréal ont ainsi vu leurs bénéfices cumulés grimper de plus de 36% par rapport à 2021. Certains groupes ont tout de même vu leurs résultats chuter à cause de la guerre en Ukraine, comme Renault ou la Société Générale, qui ont dû se retirer de Russie, des pertes qui se comptent en plusieurs milliards d'euros.
Geoffrey Branger, des bénéfices donc au CAC 40 malgré l'inflation et la crise énergétique. En revanche, les bouleversements du marché de l'énergie font très mal au déficit commercial français. Il atteint 71 milliards d'euros sur les 6 premiers mois de l'année. Un trou d'air particulièrement visible en juin. Plus de 13 milliards d'euros en un mois seulement. 3 nouveaux navires chargés de céréales ont quitté l'Ukraine ce matin, direction l'Irlande, l'Angleterre et la Turquie. L'accord conclu entre la Russie et l'Ukraine semble tenir bon pour le moment. À Taïwan, en revanche, très peu de bateaux peuvent quitter l'île. Taïwan, revendiqué par la Chine, sous blocus de facto, puisque Pékin, dans le sillage de la visite de la chef des députés américains, poursuit ses manœuvres militaires, des tirs de missiles notamment. Le département d'État américain parle désormais d'une escalade importante. À Pékin, Sébastien Le Belzic.
Des avions de chasse et des navires de guerre chinois ont franchi aujourd'hui la ligne médiane du détroit de Taïwan, violant les eaux territoriales de l'île. Deuxième jour des exercices militaires et du blocus de Taïwan, les manœuvres qui mobilisent depuis hier des centaines d'avions, de navires et plusieurs dizaines de milliers de militaires chinois empiètent sur certaines des routes maritimes les plus fréquentées de la planète. Les gardes-côtes demandent aux porte-containers de contourner la zone et les compagnies aériennes doivent éviter l'espace aérien en raison notamment des tirs de missiles balistique chinois au-dessus de Taïwan. Taïwan qui tente de calmer le jeu. Écoutez Tsai Ing-wen, la présidente taïwanaise. Nous ne sommes pas à l'origine des différends, mais nous défendrons résolument la souveraineté et la sécurité de notre nation en tant que rempart de la démocratie et de la liberté. Ces manœuvres pourraient vite dégénérer en conflit régional. Plusieurs missiles seraient tombés à moins de 400 km des côtes du Japon et Tokyo appelle à la fin immédiate de ces manœuvres, tout comme les États-Unis qui ont déployé une partie de la 7e flotte du Pacifique plus au sud, au large de Taïwan. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.
Et puis ce matin également, la Chine annonce son intention d'imposer des sanctions contre Nancy Pelosi et sa famille proche. La diplomatie chinoise n'a pas donné plus de détails. Vers un possible échange de prisonniers entre la Russie et les États-Unis, Washington le réclame et Moscou se dit prêt à en discuter après la condamnation à 9 ans de prison par la justice russe de la basketteuse américaine Brittney Griner. Elle a été reconnue coupable hier de trafic de drogue.
Raphaël Delvolvé sur Europe 1.
C'est le jour J, la Ligue 1 reprend ce soir pour la plus grande joie des supporters de football et ils sont nombreux à être heureux de retourner au stade, comme à Angers où la boutique officielle du SCO a vu des fans s'équiper ces derniers jours, Charles Guyard.
Alors là on floque le numéro 7, Sofiane Boufal.
Dans la boutique officielle en centre-ville, Louis imprime le nom de l'attaquant d'Angers sur de nombreux maillots.
Bien placer le flocage, ensuite on pose et la magie opère.
L'opération ne prend qu'une quinzaine de secondes.
Et voilà, il est prêt pour la saison.
La saison de Ligue 1 qui reprend ce soir, même si les supporters angevins vont devoir eux patienter jusqu'à dimanche et la réception du voisin nantais. Pour Gaël, l'important, ce n'est pas que les 3 points, c'est au-delà.
Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. On va tout défoncer et on va s'équiper un petit peu là.
La boutique, Noé, lui, n'est pas prêt d'y rentrer, même si le jeune homme a quand même hâte de voir le championnat reprendre dans sa ville.
Bah moi, je suis extrêmement pressé, là, j'attends.
Pourtant, t'as le maillot du Real.
Bah moi, c'est plus le Real, mais bon.
Pas de quoi s'excuser, après tout, prenons cela comme un hommage à Raymond Coppa, le Ballon d'Or 58. Qui a débuté au SCO, une carrière qui l'a emmené jusqu'à Madrid. Raymond Coppa, c'est d'ailleurs désormais le nom du stade d'Angers. Un stade que Faisal est impatient de retrouver.
Ah, clairement, je suis pressé que ça reparte là. On peut gagner, on a tout, tout ce qu'il faut.
Angers qui a surtout la dalle, hein, la fameuse dalle angevine, celle qui ouvre l'appétit de Josué.
Ça veut dire quoi la dalle angevine ?
Qu'on a faim, quoi, on veut gagner à tout prix, manger la Ligue 1.
Une Ligue 1 qui commence donc ce soir par la venue du promu Ajaccio sur le terrain de Lyon. Angers, Charles Guyard, Europe 1.
Voilà, Angers-Nantes, c'est dimanche à 15h. Les supporters impatients dans les starting blocks, comme le service des sports d'Europe 1, il vous fera vivre toute la saison en intégralité sur notre antenne. Ça commence ce soir, Charles Guyard nous l'a dit, avec Lyon-Ajaccio, coup d'envoi 21h. Bonjour Colin Abgral.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Lyon-Ajaccio, ce sera le premier match d'une saison franchement pas comme les autres.
C'est le moins que l'on puisse dire. C'est une saison très singulière que nous allons vivre ensemble. Le championnat va être scindé en deux parties, Coupe du Monde oblige. Aucun match entre le 21 novembre et le 18 décembre, ce qui va déboucher sur la deuxième nouveauté, l'adoption de la recette anglaise du Boxing Day. Et oui, pour rattraper le temps perdu au Qatar, les joueurs de Ligue 1 joueront au football pendant les fêtes de fin d'année. Du changement dans le calendrier, c'est l'Olympique Lyonnais qui aura l'honneur de l'inaugurer ce soir. 8e la saison passée, pire classement depuis 26 ans, privé de Coupe d'Europe. Chose rare pour le club, l'entraîneur Peter Bosch ne veut pas répéter les erreurs de l'an passé.
Notre saison qu'on a eue la saison dernière, on a perdu beaucoup de points, surtout les petits clubs. Les joueurs sont à 100% concentrés pour ces matchs-là parce qu'on sait que ce n'était pas facile l'année passée. Donc on va tout faire pour faire mieux.
Et il faudra donc gagner face à Ajaccio, nouveau promu qui va devoir cravacher pour garder sa place dans l'élite car dès l'année prochaine, et c'est la dernière nouveauté, le championnat passera à 18, ce qui signifie que 4 équipes seront reléguées en fin de saison.
Ouais, Colin, saison spéciale effectivement, mais il y a des choses qui ne changent pas. Le PSG reste le grandissime favori.
Et oui, on ne voit pas très bien qui peut concurrencer l'armada des stars parisiennes. Neymar, Messi, Mbappé devraient sans aucun doute mener le PSG à un 11e titre de champion, ce qui représenterait un record absolu dans l'histoire du championnat.
Merci Colin, Colin Abgral, que vous retrouverez régulièrement cette saison sur Europe 1. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Diamonds are a girl's best friend. Le diamant est le meilleur ami des femmes. Vous reconnaissez la voix de Marilyn Monroe. Difficile de passer à côté aujourd'hui. La voix de Marilyn Monroe s'est éteinte il y a tout juste 60 ans. Aujourd'hui, je vous recommande, tiens, cette série consacrée à Marilyn Monroe. Dans les colonnes de nos confrères du Figaro, on apprend plein de choses passionnantes sur le mythe Marilyn Monroe. Vous écoutez Europe 1, il est midi passé de 13 minutes.
À la plage ou au bureau, retrouvez la météo. Avec les 250 hôtels Kyriade, partez à la découverte de nos régions sur kyriade.com.
Allez, la météo avec Anthony Kazmarek. Bonjour Anthony.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
La canicule, la troisième de l'année, arrive à son terme. Place aux orages. Ça a même déjà commencé la nuit dernière par endroits.
Effectivement, on a relevé 6600 impacts de foudre hier après-midi et déjà 6900 depuis minuit, ce qui fait plus de 13 000 en 24 heures. Et nous avons actuellement 5 départements en vigilance orange pour un risque d'orage violent à l'est du Massif central, sur la Loire, la Haute-Loire, la Drôme, l'Ardèche et jusqu'en Isère. Et toujours 9 départements en vigilance orange canicule entre la vallée du Rhône et les Alpes du Nord, car c'est là qu'il fera encore très chaud cet après-midi. On aura 34 degrés à Lyon, 36 à Grenoble, 36 aussi à Perpignan et 37 à Nîmes et Avignon. Mais ailleurs, on va enfin respirer. 20 degrés à Brest, 23 à Lille, 25 à Biarritz, 26 à Paris, 28 à Nantes et Tours, encore 31 degrés à Strasbourg, avec pas mal de nuages du sud-ouest au nord-est. Et donc ces orages qui vont se déclencher surtout sur les reliefs. Prudence à l'est du massif central, puis partout ailleurs. Déjà le retour d'un temps sec, ensoleillé, avec un petit vent de nord qui va faire chuter les températures la nuit prochaine. On aura seulement 7 degrés demain matin au réveil à Charleville-Mézières. On sera globalement entre 10 et 15 degrés sur la moitié nord. Et puis le temps sec va se poursuivre demain, dimanche, lundi, mardi et sans doute malheureusement pour les 7 prochains jours, avec peut-être une quatrième vague de chaleur à partir de mardi.
Allez, il faut en profiter de cette fraîcheur. Merci Anthony Kaczmarek. Europe Midi continue.
Europe 1. Le choix de Mola.
Notre conseil littérature quotidien maintenant avec Stéphane Place. Bonjour Stéphane.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Stéphane Place est notre librairie partenaire, la librairie Mola à Bordeaux. Stéphane, un auteur qui ne nous est pas inconnu aujourd'hui, Michel Bussy et son dernier roman.
Oui, Les Nymphéas Noirs, Maman a tort, Le temps est assassin ou encore Un avion sans ailes. Ces dernières années, Michel Bussy s'est imposé comme l'un des auteurs à succès en France et à l'étranger puisqu'il est traduit dans près de 40 pays. Aujourd'hui, ce géographe de formation, il a longtemps été prof d'université en Normandie, a décidé de s'offrir un incroyable voyage dans le futur, puisque ce roman Nouvelle Babel nous projette en 2097 et avec un outil tout à fait nouveau, la téléportation, qui est possible pour chaque être humain. Enfin presque, c'est justement l'un des éléments de l'intrigue, je n'en dis pas plus. Polar, roman d'anticipation, l'histoire débute par l'assassinat de retraités qui vivaient tranquillement dans un petit coin de paradis. Le monde forme en fait une seule et même nation, et c'est dans ce cadre que trois policiers, un journaliste aux dents longues et une institutrice vont se retrouver dans ces investigations planétaires, puisqu'il suffit d'appuyer sur son TPC, c'est pas plus gros qu'une montre, pour aller d'un endroit à un autre sur la Terre. Roxane Le Mignon, libraire chez Mola.
Quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit, bon, la téléportation, d'accord, ils peuvent se déplacer, mais après, ça a été déjà vu, ça a été déjà fait. Mais Michel Bussy a quand même pensé à beaucoup de choses autour de ce sujet. Les effets de la téléportation, auxquels j'aurais pas pensé moi, malgré le fait que ce soit une société très connectée, il y ait quand même encore des meurtres et des enquêtes de police et que les policiers aient toujours autant de mal à attraper les meurtriers.
Au-delà de la résolution de ces meurtres, Michel Bussy explore les conséquences politiques, environnementales aussi, liées à cette avancée technologique majeure.
Si on invente la téléportation, si les gens se déplacent de plus en plus, librement, les gens auront besoin de parler tous la même langue. Les problèmes à l'échelle de la planète devront être réglés à l'échelle de la planète, que ce soit l'écologie, les pandémies, les conflits. Donc, c'était de montrer qu'en fait, les identités nationales, et on en voit avec les conflits qu'on connaît aujourd'hui, mais aussi dans l'importance du nationalisme, du souverainisme dans les campagnes électorales, etc. Tout ça, il y a quelque chose qui est de l'ordre du conflit permanent, presque de l'absurdité. Et donc l'idée qu'il y aurait un après, que c'est une situation qu'il faudra dépasser à un moment donné, c'est une utopie, mais c'est une utopie un peu réaliste si on considère l'évolution du monde. Les gens communiquent beaucoup plus, la mondialisation non seulement économique, mais aussi des échanges existe et qu'elle existe beaucoup plus qu'il y a encore 100 ans.
Et pas la peine d'être un adepte de science-fiction pour adhérer à cet univers imaginé par Michel Bussy. Lecture facile et très distrayante.
C'est bien noté, Nouvelle Babel de Michel Bussy, publié aux presses de la Cité. Merci Stéphane Place. Restez avec nous dans quelques instants, le débat d'Europe Midi. Guillaume Vuittet, député Renaissance, et Amine Elbaï, porte-parole des Républicains, seront avec nous dans quelques instants. Nous parlerons notamment de cette vague de sécheresse présentée comme historiquement intense par Matignon ce matin. A tout de suite sur Europe.
Europe Midi, Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, place au débat d'Europe Midi. J'accueille Guillaume Vuittet, député Renaissance. Bonjour.
Bonjour.
Et pour lui donner la réplique, la contradiction, Amine Elbaï, porte-parole Les Républicains. Bonjour.
Bonjour.
L'actualité aujourd'hui, c'est cette sécheresse historique, la pire jamais vue. Ce sont les termes employés par Matignon. La cellule de crise interministérielle est réunie en ce moment autour d'Elisabeth Borne. À ce jour, 96 départements, donc aucun n'y échappe, sont concernés par des vigilances. 93 font l'objet de restrictions. 62 sont considérés comme en crise. Là, ça veut dire que les restrictions sont encore plus importantes. Je m'adresse à Guillaume Vuittet. Vous étiez écologiste, enfin membre du parti Europe Écologie Les Verts dans un passé pas si lointain. Il va falloir s'habituer à ces sécheresses toujours plus intenses, toujours plus longues, toujours plus répétées dans l'année. Est-ce qu'il va falloir en fait revoir d'urgence notre modèle agricole?
Ah ben, je pense qu'on est déjà en cours de sa réécriture. Marc Fesneau et Christophe Béchu étaient dans les Alpes d'Haute-Provence aujourd'hui ou hier, je ne sais plus exactement. Enfin, ils s'expriment très clairement là-dessus. On a déjà mis 600 millions d'euros pour pouvoir prévoir, justement pour anticiper cette crise. Mais il y a des choses qu'il va falloir changer. Il va falloir avoir une agriculture qui va être mieux organisée et plus sobre en la matière. Il faut accompagner le secteur. Et puis même changer des choses. Je vais vous raconter une histoire. D'ailleurs, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Il y a un syndicat d'assainissement dans ma circonscription qui est le SICTUB. Qui est présidé par Daniel Dess, qui est un monsieur que je salue parce qu'il est vraiment très efficace, qui se pose la question, que faire de l'eau qu'on a traitée? Aujourd'hui, on la rejette dans l'Oise. Bah, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait d'avoir un système qui permette de s'en servir pour l'arrosage et justement d'éviter de taper dans la nappe phréatique? Donc, on a tout un système à changer et à faire évoluer parce que la réalité du dérèglement climatique, elle est là, qu'il y a des conséquences sur la gestion de la ressource en eau, c'est évident. Il faut l'assumer collectivement, en lien avec les collectivités locales, les acteurs économiques et le gouvernement. Et je pense que c'est ce qui est en cours.
Parce qu'on a le sentiment que le gouvernement est un peu pris de court, qu'il n'avait pas anticipé.
Ah, c'est pas vrai. Quand on met 600 millions d'euros sur la table, c'est-à-dire qu'on a anticipé. Mais par contre, que ce soit une gestion qui se passe dans le temps, oui, évidemment, la transformation d'un système ne se fait pas en 15 jours.
Alors, il y a un débat, Amine Elbaï, qui émerge en ce moment. C'est est-ce qu'il faut révolutionner notre modèle agricole ou bien l'adapter au changement climatique?
Bien évidemment, l'adapter au changement climatique, mais peut-être rebondir sur les propos qui viennent d'être tenus. Moi, je pense que le gouvernement commet une nouvelle fois une erreur. Et effectivement, nous sommes pris de court par la sécheresse. Et d'ailleurs, dans mon département, dans le département du Nord, c'est la première fois que notre département est placé en alerte sécheresse, alors que, généralement, dans le nord de la France, pendant des mois, il pleut un peu plus souvent qu'à Marseille. Toutefois, moi, je m'inquiète de la communication du gouvernement. C'est encore une fois les Françaises et les Français qui vont devoir payer pour les entreprises, pour les administrations. Alors qu'il conviendrait ici, sur cette question de la sécheresse, de responsabiliser d'abord en premier lieu les administrations, puis ensuite co-construire aussi et accompagner le travail des entreprises, en régulant bien évidemment les consommations en eau de la part de nos industriels, et puis enfin travailler et accompagner aussi les Françaises et les Français, parce que l'eau est d'abord une ressource nécessaire à la vie des Françaises et des Français, et à la vie de tout être humain, bien évidemment, sur Terre. Et plutôt que de créer une cellule interministérielle et mobiliser une police de l'environnement sous le contrôle de l'Office de la biodiversité, moi, je pense qu'il faudrait d'abord et avant tout protéger nos agriculteurs, protéger la production de toutes celles et ceux qui apportent un certain nombre de richesses dans notre pays, et aussi réguler les consommations en eau au sein des administrations.
Je pense que vous devez être rassuré par ce qu'on va faire, et par ce qu'on fait en réalité. Parce que la sobriété, évidemment, l'exemplarité doit venir d'abord de la puissance publique, ensuite les acteurs économiques doivent être impliqués, et aussi il y a sans doute des efforts à demander aux particuliers dans leur usage du quotidien. On n'invente pas l'eau, il faut la gérer, il faut gérer nos ressources et faire en sorte qu'elle puisse être utilisée de façon parcimonieuse. Encore une fois, c'est une situation que la Terre entière subit, le dérèglement climatique est à l'échelle de la planète. On met en œuvre des politiques qui permettent d'accompagner les agriculteurs. Et je crois, pour le coup, ce serait un mauvais procès de dire que le gouvernement est inactif par rapport à ça. Si on fait une cellule de crise, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une crise. Je pense qu'elle se met en place justement parce qu'on savait que ça risquait d'arriver. Et si jamais il y a 600, encore une fois, s'il y a 600 millions d'euros sur la table, et ce n'est pas la première fois que le ministère de l'Agriculture fait en sorte qu'il y ait des moyens pour gérer les crises. Il y a la grêle juste avant, on vient de publier un décret qui permet de mettre 40 millions de plus sur la table pour gérer les effets de la grêle. La grêle, le dérèglement climatique, ce n'est pas que la sécheresse, c'est aussi cela. Voilà, il y a une politique qui forcément n'empêche pas la sécheresse.
Nous pensons que c'est effectivement une très bonne mesure, et nous pensons qu'effectivement il faut autoréguler et réguler les consommations en eau, et avoir annoncé la création d'une cellule interministérielle d'urgence sur la question de la sécheresse est une bonne chose, et nous devons effectivement accompagner ce mouvement, et nous soutenons évidemment ce mouvement qui consiste à accompagner justement la question de la consommation en eau. Toutefois, ce ne sont pas les Français qui doivent payer le manque d'anticipation de la part du gouvernement sur cette question, et notamment sur les particuliers, sur les agriculteurs, sur toutes celles et ceux qui ont besoin justement de ces ressources vitales, ressource vitale à la vie. On ne crée pas d'eau et vous l'avez rappelé. Vous
les agriculteurs qu'on a, on accuse souvent de gaspillage, ils n'utilisent qu'un 1,7% des ressources en eau française.
Non, mais
quand vous interrogez la FNSEA, le grand syndicat agricole, ils vous disent que il pleut pas moins, il pleut différemment selon les périodes de l'année.
Alors visiblement, je mentirais en disant que je connais toutes les séries statistiques en la matière, mais là c'est le deuxième mois de juillet le plus sec depuis l'invention.
Mais il a beaucoup plu à l'automne dernier.
Quand on parle, on ne parle plus de réchauffement climatique, mais de dérèglement climatique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'on sait très bien qu'en effet, c'est plus des incidents climatiques dans un sens comme dans l'autre. On ne fera pas payer les gens, ce n'est pas ça le sujet. On va accompagner la transformation d'une agriculture pour qu'elle prenne en compte ces réalités-là. Il ne s'agit pas de faire payer ni les particuliers, ni les agriculteurs. Il ne s'agit pas de faire payer même les entreprises. Il s'agit de faire en sorte d'appeler tout un chacun, et avec l'exemplarité de la puissance publique, de faire en sorte que ces ressources soient mieux gérées et qu'on soit sobre.
On va continuer notre conversation. Excusez-moi, Amine Elbahu, je suis absolument désolé. Je vous ai coupé la parole. On reprend notre conversation dans quelques instants. Petite pause et on revient sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Midi. Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, nous sommes avec Guillaume Vuittet, député Renaissance, et Amine Elbahi, porte-parole Les Républicains, pour le débat d'Europe Midi. Mais avant, le rappel de l'essentiel de l'information avec vous, Guillaume Bion. Bonjour.
Bonjour Raphaël. Et cette sécheresse est la plus grave jamais enregistrée dans notre pays. La situation pourrait perdurer sur les 15 prochains jours, voire devenir plus préoccupante encore. Ce sont les mots ce matin d'Elisabeth Borne qui active la cellule de crise interministérielle. Une réunion est au programme d'ailleurs dans l'après-midi. L'objectif de cette cellule, remonter les informations régulière des préfets de départements dans les zones touchées et suivre l'impact de la sécheresse sur les infrastructures de production d'énergie et de transport. Concrètement, 93 départements sont donc en alerte sécheresse, dont les trois quarts au niveau de crise. Et par ailleurs, 9 départements du sud-est du pays sont en vigilance orange canicule, 5 en orange également pour des risques d'orage. C'est un Patrick Balkany creusé du visage et affaibli qui a fait son retour chez lui à Giverny au lendemain de l'annonce de sa libération conditionnelle par la cour d'appel de Paris. L'ex-maire de Levallois-Perret a quitté la prison de Fleury-Mérogis discrètement dans la matinée. Il y était incarcéré depuis février pour fraude fiscale. Les tensions ne faiblissent pas entre la Chine et les États-Unis. Pékin va imposer des sanctions à la chef des députés américains Nancy Pelosi et à sa famille proche après sa visite à Taïwan, un déplacement qui a déclenché la colère des Chinois et qui a vu le lancement de vastes manœuvres militaires. Au passage, la Chine annonce à l'instant mettre fin à la coopération avec les États-Unis sur plusieurs dossiers, notamment des négociations sur le changement climatique. Enfin, ce soir, lancement de la saison de football avec en ouverture Lyon-Ajaccio à 21h. Match à suivre bien sûr sur Europe 1 avec le retour d'Europe 1 Sport. Voilà Raphaël.
Merci beaucoup Guillaume Buon qui vous informe, vous accompagne jusqu'à 17h sur Europe 1. Europe 1. Et avec Guillaume Vuittet, député Renaissance, et Amine Elbahi, porte-parole des Républicains, nous évoquions justement cette sécheresse historique qui traverse la France actuellement. Et il y a quelque chose qui nous revient en mémoire. Ce sont ces vastes projets de retenue d'eau, de barrages, comme à Sivens, rappelez-vous, des projets qui ont été abandonnés sous pression de militants écologistes, notamment, qui estimaient que ce n'était pas bon pour l'environnement. Mais ça apparaît comme une solution intéressante pour ce sens à Guillaume Vuittet.
Écoutez, je pense que ça fait partie des illustrations. Alors, Sivens, c'est évidemment le contexte dramatique qui va avec, fait que je pense que c'est compliqué de raisonner avec posément par rapport à ça. Mais il y a eu d'autres cas.
Les deux Sèvres, il y a eu plein beaucoup.
Il y a eu un débat d'ailleurs sur la suppression des retenues d'eau qui a été à l'Assemblée il y a de ça quelques temps. Oui, je pense qu'il faut faire du cas par cas, d'une part. Il faut regarder là où c'est efficace, là où c'est utile, là où on doit préserver la biodiversité à tout prix et avoir cette logique de se dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Il y a un mix énergétique à trouver, dont celui des retenues d'eau et des barrages. Incidemment, on va mettre en urgence 100 millions d'euros pour l'adaptation des infrastructures hydrauliques, justement pour permettre la gestion de la sécheresse. Et vous parliez tout à l'heure du problème de qui va payer. On va faire un bilan sur les conséquences économiques mi-août de la sécheresse et voir comment on établit un régime d'aide. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, il va falloir sortir des postures pour être sûr qu'est-ce qu'on veut. Et dans le mix énergétique, il y a besoin de l'hydraulique. Donc, il va falloir aussi là-dessus qu'en effet, quelques personnes qui sont sur une posture écologique reviennent un petit peu à des choses beaucoup plus raisonnables.
Amine Elbahi.
Évidemment, sur la question, mais sur cette question, je pense qu'il n'y aura pas un grand clivage avec toutefois deux points, malgré tout. Sur la question de Sivens, je pense que la mobilisation des militants écologistes, je ne sais pas si on peut les appeler militants écologistes, mais plutôt les ayatollahs de l'écologie qui, sur chaque question d'un réflexe pavlovien, nous empêchent d'avancer dans l'intérêt général. Nous devons être fermes et remettre la question de l'intérêt général au service des Françaises et des Français. Sur cette question, monsieur, je tiens toutefois à vous dire que nous devons être capables de remettre la police de l'environnement là où elle doit se trouver et empêcher ces militants qui nous empêchent aujourd'hui de pouvoir avancer dans le sens de l'intérêt général pour les productions et les richesses naturelles qui permettent à tout un chacun, à tout être humain qui a besoin d'eau. Vous savez, aujourd'hui, il y a dans un certain nombre de communes des personnes très âgées qui n'ont pas accès à l'eau. Et moi, je veux, par exemple, saluer le travail dans ma commune, à Roubaix, le travail effectué par le Centre communal d'action sociale avec ce plan sécheresse qui consiste justement à travailler, parce que c'est une obligation qui incombe aux collectivités, qui consiste à travailler et accompagner toutes les personnes âgées afin de leur permettre de s'alimenter et de pouvoir évidemment s'hydrater. Sur cette question, sur la question de l'accès aux ressources en eau, je pense qu'il faut pas, il faut sortir des dogmatismes. Vous l'avez dit, bien évidemment, avec ces militants écologistes, mais il faut aussi, et vous parlez d'un bilan de 100 millions d'euros à l'issue du mois d'août, il faut aujourd'hui prendre des engagements. Il faut que le bilan de cette sécheresse n'incombe pas sur les impôts des Françaises et des Français. Les Françaises et les Français n'ont pas à assumer le manque d'anticipation, de préparation, alors que nous parlons d'urgence climatique, le manque de préparation du gouvernement sur la question de la sécheresse. Il faut responsabiliser les administrations, il faut responsabiliser aussi un certain nombre d'industriels et il faut préserver et sauvegarder avant tout l'intérêt des Françaises et des Français.
Alors Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, et Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, parle à la presse en ce moment dans les Alpes de Haute-Provence. Cette information que je vous donne juste, et je vous donne la parole ensuite, Guillaume Vuittet, 100 communes actuellement sont sans eau potable en France. Guillaume Vuittet.
Il y a deux choses. D'une part, je reviens à mon exemple du SICTUB, ce syndicat d'assainissement de ma circonscription qui propose qu'il y ait d'autres usages d'une eau retraitée, et ça fait partie des solutions. C'est un exemple, hein, véritablement. Maintenant, deux choses. Non, il n'y aura pas un impôt sécheresse, si c'est ça la question.
Vous mais prenez l'engagement contre, aujourd'hui
mais, enfin, d'une part, je n'ai pas la mesure, je suis pas en mesure de le faire en tant que député, mais ce n'est absolument pas dans l'intention du gouvernement de bâtir un impôt sécheresse. Mais par contre, il ne faut pas non plus se leurrer. Quand il y a une action publique qui vise à réparer un désordre, c'est l'argent public qui le paye, hein, et ça c'est normal. Donc il ne faut, faut pas non plus donner l'illusion qu'il y a des choses gratuites en la matière, on pourrait en parler d'ailleurs sur d'autres sujets. En revanche, le but du gouvernement n'est certainement pas d'avoir une taxation spéciale par rapport à ça, et en particulier, enfin, ni les agriculteurs, ni les particuliers ne sont dans un tel collimateur. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on ait tous des pratiques qui soient responsables en la matière, et l'administration doit être exemplaire.
Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les golfs ? Tiens, c'est un élu écologiste, le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui a soulevé ce problème hier. Il s'est insurgé contre des dérogations que l'on accorde aux golfs. C'est effectivement vrai. Les golfs ont le droit de consommer plus d'eau dans certaines régions soumises à des restrictions pour arroser, vous savez, les fameux greens. Ils doivent seulement réduire leur consommation de 20% entre 19h et 9h. Alors la Fédération française de golf a toutefois contredit le maire de Grenoble qui avançait des chiffres de 5000 mètres cubes d'eau utilisée par jour, la consommation de 12 000 habitants. Pour la Fédération de golf, les greens nécessitent 30 fois moins d'eau. Il avance 25 000 mètres cubes par tranche de 9 trous par an. Voilà, est-ce qu'il faut interdire au golf d'utiliser de l'eau ? Il faut qu'eux aussi... ils soient soumis à des restrictions, Amine El-Bahi ?
Alors, sur cette question, sans sombrer dans le dogmatisme, il ne vous aura pas échappé qu'un certain nombre de clubs de golf sont aussi des sociétés, ce sont des entreprises, et qu'en cette période estivale, un certain nombre d'entreprises contribuent justement aux richesses de notre pays. Et que le préjudice, notamment en matière touristique, je pense notamment à nos amis anglais en Bretagne, serait toutefois conséquent pour un certain nombre de saisonniers. Et puis pensons aussi à celles et ceux qui travaillent, pensons à ces entreprises qui ont attendu justement cet été pour pouvoir travailler, pour pouvoir compenser les pertes liées à la crise Covid-19. Donc il va falloir accompagner évidemment ces entreprises, il va falloir accompagner aussi les fédérations sportives, et puis à la fois réguler l'intérêt, le sens de l'État, l'intérêt général, les besoins aussi dans un certain nombre de départements, et les préfets ont le pouvoir justement de réguler les consommations en eau à certaines heures, pour un certain nombre de personnes dans un certain rayon. Et ces mesures devront être adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.
Guillaume Vuittet, c'est choquant de voir ces tuyaux d'arrosage en action sur les parcours de golf.
Il faudra plus en effet le pouvoir des presseurs en la matière, et c'est un pouvoir important qui permet de réguler la consommation d'eau. Je voudrais demander à Eric Piolle s'il dit la même chose sur les terrains de foot et les terrains de rugby qui sont utilisés en ce moment parce que c'est les vacances et qu'on arrose et qu'on entretient aussi.
Ah, ou les piscines.
Incidemment, peut-être les piscines. Ce sont des enjeux économiques. Ce sont des enjeux économiques. Je fais plutôt confiance aux industriels du secteur, aux entreprises, qui ont cette préoccupation depuis longtemps, parce que ce n'est pas nouveau. Et puis d'ailleurs, évidemment, ça passe aussi sur leur compte d'exploitation. Donc, ils ont un intérêt, une décision parcimonieuse. Je suis persuadé qu'elles feront l'effort en la matière. Et puis, j'en reviens toujours à mon exemple du SIC du Tub, dont je fais décidément la promotion aujourd'hui.
Visiblement.
Mais non, mais parce que, regardez, pour arroser un golf, c'est quand même plus malin de prendre de l'eau qui a été retraitée plutôt que de prendre de l'eau dans la phréatique. C'est aussi ça qu'il faut mettre en place. Il y a des investissements à faire. Aujourd'hui, ces syndicats n'ont pas le droit de les faire. Donc, je pense qu'il faut accompagner. Il y aura sans doute des choses à faire au Parlement là-dessus. Mais ça fait partie justement du changement de modèle qu'on doit pouvoir mettre en œuvre.
Amine Elbaï.
Il y a sur cette question des initiatives formidables qu'il convient de mettre en avant. Vous parlez de votre métropole. Moi, je veux saluer par exemple les agents de la métropole européenne de Lille dans le Nord. Vous savez, les métropoles ont aussi un rôle à jouer avec les départements selon la répartition évidemment des compétences. C'est la loi MAPTAM. Il me semble que vous l'aviez votée. Moi, je pense qu'il faudrait accompagner ces métropoles et peut-être mettre en place un plan plus général de récupération des eaux usées durant les périodes d'automne, d'hiver, pour justement pouvoir les réutiliser l'été et pouvoir accompagner aussi ces nouvelles productions, ces nouvelles filières de production, ces filières de production locales, et puis adapter, quand on parlait tout à l'heure d'agriculture, adapter aussi un certain nombre d'initiatives et de les promouvoir. Moi, je veux prendre l'exemple d'une fameuse association à Roubaix. Ce sont des agriculteurs urbains, et l'agriculture urbaine représente à l'heure actuelle près de 10% des productions agricoles dans les communes en France. Il faut justement soutenir ces initiatives, et pour cela, ça suppose évidemment un sens de l'anticipation, et puis aller peu à peu vers ces objectifs qui vont nous amener d'ici à 2050 à réduire ces consommations en eau. Et puis nous parlions aussi des agriculteurs, arriver peut-être à l'échelle plus globale de l'Union européenne au zéro carbone.
Merci Amine Elbaï. On va changer de sujet après une courte pause sur Europe 1. On va aller au Parlement faire un petit bilan de ce qui s'est passé ces trois dernières semaines. Ces longs et âpres débats de jour comme de nuit pour finalement cette adoption hier du paquet pouvoir d'achat. Des compromis entre Les Républicains et Renaissance. On va voir ça juste après une courte pause sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Midi. Raphaël Delvolvé.
De retour sur le plateau d'Europe Midi, je suis avec Amine Elbaï, orateur Les Républicains. On ne dit plus porte-parole maintenant, Amine Elbaï.
Le parti est en pleine reconfiguration, il assure sa transformation et puis il y aura les élections internes à la rentrée pour assurer le renouvellement politique tant attendu et exprimé par les électeurs de la droite et du centre à la rentrée.
C'est bien noté, monsieur l'orateur. Face à vous, Guillaume Vuittet, député Renaissance.
Ça reste député, oui, ça n'a pas changé.
Alors, hier, au Parlement, le paquet pouvoir d'achat a été définitivement adopté, le second volet. Alors, toute la presse est quasiment unanime. Le compromis a été trouvé entre la majorité présidentielle et la droite. Même la chef des députés Renaissance l'a dit ce matin sur notre antenne, Aurore Berger.
Moi, j'ai dit depuis le départ que je posais un principe clair, c'était aucune négociation, ni avec l'extrême droite, ni avec l'extrême gauche. On ne peut pas négocier quand on a des valeurs aussi éloignées de celles que nous portons.
Donc le seul partenaire présentable, c'est LR ?
C'est les LR, c'est le Parti Socialiste, c'est peut-être demain aussi les écologistes, et c'est à mon avis comme ça qu'il faut travailler. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une attitude aussi dans l'hémicycle, et que malheureusement, cette attitude systématiquement vindicative, d'obstruction, d'invective, d'une attitude aussi qui n'est pas digne de nos débats et de notre institution de la part de LFI, je crois qu'elle sert aussi considérablement le Rassemblement National, parce que de l'autre côté, il suffit qu'ils présentent bien, comme aurait dit ma grand-mère, qu'ils, eux, mettent une cravate pour apparaître comme des gens raisonnables.
Alors, Guillaume Vuittet, c'est vrai que Aurore Berger parlait de compromis possibles avec les socialistes, mais alors sur le paquet pouvoir d'achat, c'était plutôt avec les Républicains. Monétisation des RTT jusqu'à fin 2025, la ristourne sur le carburant à 30 centimes, ça c'est le fruit d'un accord avec les LR. Même sur la prime de rentrée exceptionnelle qui sera donnée aux bénéficiaires des minima sociaux, mais aussi ceux de la prime d'activité.
Alors, différentes choses. D'une part, tout ce que vous me citez là, ce sont des mesures d'intérêt général.
D'aspiration libérale.
Non, pas le rachat des RTT, je ne crois pas que ce soit une aspiration libérale. C'est une possibilité...
La gauche est folle, furieuse. Non, elle parle d'un détricotement des 35 heures.
Si vous m'y autorisez, on va parler 5 secondes de la gauche et de sa partie qui s'appelle l'extrême gauche. J'ai bien entendu Benjamin Lucas, que je devrais retrouver d'ici peu d'ailleurs, dans un débat, s'offusquer qu'on les appelait l'extrême gauche. Mais enfin, l'épine dorsale de cette opposition-là, c'est LFI. Et oui, c'est l'extrême-gauche. Et en fait, aujourd'hui, on a encore un PS et des écologistes qui sont complètement dominés par LFI dans les débats. Donc là, pour le coup, en effet, on n'est pas dans la raison et on n'est pas dans la volonté d'aboutir, on est dans la posture. On a des propositions qui sont des propositions d'intérêt général. La réalité, c'est que ce Parlement fonctionne aussi avec le Sénat. Vous parliez d'accord avec LR à l'Assemblée, mais il y a aussi le Sénat. Et le Sénat fait son travail, c'est la deuxième chambre, et on a trouvé un compromis avec le Sénat. Vous savez, je suis très
le Sénat dominé par les Républicains, il faut le dire.
Je voudrais juste dire une chose.
Oui.
J'ai été rapporteur d'une loi qui ne passionne pas forcément tout le territoire, mais ils ont bien tort, qui portait sur le statut des fonctionnaires communaux en Polynésie. Bon, c'est une loi qui concerne quand même 5000 fonctionnaires communaux là-bas. Et c'est important sur ce territoire lointain. Bah, on est arrivé à un accord avec les sénateurs, mais aussi à l'Assemblée. Le résultat, c'est que ça a été voté à l'unanimité, moins une voix dont je ne sais pas si elle était contre ou si elle s'était trompée de bouton. Ce qui veut bien dire qu'à un moment donné, on arrive à faire le travail. Et donc, tous ceux qui nous décrivaient ce Parlement comme étant une sorte de guerre de tranchées éternelle se trompent. On arrive à travailler. Maintenant, ce que j'espère, c'est que et les socialistes et les écologistes, quand ils sortiront de cette domination qu'ils subissent de la part de LFI, pourront rentrer dans un débat qui sera plus démocratique.
Amine El Bailly, quand on est dans l'opposition, c'est dur, hein, si on n'est pas extrême, de se faire passer pour un vrai opposant. Là, vous faites, si on lit la presse aujourd'hui, on a l'impression qu'LR, c'est l'allié en fait, de la majorité présidentielle. Majorité relative, je le rappelle.
Non, les Républicains ont fait le choix de ne pas être des bloqueurs. Mais les Républicains ne sont pas à vendre. Les Républicains ont porté des propositions extrêmement fortes au lendemain des élections présidentielles, à l'occasion des élections législatives. Nous avons promis la déconjugalisation de l'allocation pour adultes handicapés. Nous avons tenu cet engagement et nous avons porté cet amendement aussi bien au Sénat qu'à à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, les personnes handicapées bénéficient de la déconjugalisation.
C'était aussi un engagement du président. Hein.
Nous avons promis le blocage du prix à la pompe à 1,50€ et nous avons trouvé un accord dans l'intérêt des Françaises et des Français pour que le prix à la pompe revienne à 1,50€. Nous avons promis la monétisation des RTT. Nous avons avancé sur la question de la défiscalisation des heures supplémentaires. Sur toutes ces mesures, les Républicains ont été au rendez-vous parce que les Françaises et les Français nous l'ont demandé et parce que c'est notre devoir que de protéger le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Et puis, enfin, les Républicains ont décidé de ne pas rejoindre la majorité parce que les Républicains sont dans l'opposition d'Emmanuel Macron, parce que nous ne pouvons pas justement être solubles dans le macronisme qui, pendant 6 ans, a consisté à développer un matraquage social de plus en plus fort à l'égard des plus démunis. Il a fallu attendre l'élection présidentielle pour enfin avoir un geste vis-à-vis des fonctionnaires sur le dégel du point d'indice des fonctionnaires, sur l'augmentation des minima sociaux. En rappelant quand même une chose, c'est que les grands oubliés, ce sont celles et ceux qui travaillent. Et il faut aujourd'hui mettre fin à cette politique des chèques inutiles, et redonner tout son sens à la valeur travail, et récompenser aussi celles et ceux qui travaillent en augmentant, moi je le pense, la prime d'activité.
Guillaume Vuittet.
Alors, c'est... que le LR soit dans l'opposition, c'est pas un scoop et c'est bien normal. Et puis
Si clair.
Mais, si, mais, d'ailleurs, vous venez de l'énoncer. Maintenant, le fait d'être dans l'opposition ne t'impose pas d'être injuste. Et en matière de reconnaissance de la valeur travail, je pense que ce pouvoir est à la pointe de cela. Je pense qu'il a réduit les impôts de production pour permettre de libérer des marges et sur la profitabilité et sur les salaires. Il y a les primes qui ont été mises en œuvre et il y a aujourd'hui maintenant la revalorisation dans une mesure d'urgence sur le pouvoir d'achat qui permet de faire en sorte que l'inflation soit absorbée par des revalorisations pour les fonctionnaires, pour les retraités. On est en cumul, on est à 4, bientôt 6% d'augmentation pour les retraites. On a la suppression de la redevance audiovisuelle qui est un gain direct de pouvoir d'achat directement dans la poche des Français. Donc je crois qu'il y a aujourd'hui une volonté très nette, c'est 20 milliards après le passage au Sénat et avec des accords qui sont bénéfiques. Je pense que, par exemple, aux compensations pour les collectivités locales, où on passe de 300 millions à presque 600 millions, on est passé de 20 milliards à 21 milliards. Je reconnais ce travail, il est extrêmement bénéfique. On peut peut-être reconnaître que, quand on a déjà prévu 20 milliards sur 21 milliards, c'est qu'on avait quand même fait une partie du travail, quand même. Hein.
Il faut aller peut-être plus loin, monsieur le député. Moi, je pense que La République En Marche doit revenir sur le terrain et comprendre que la réalité des Françaises et des Français, elle se vit dans les territoires. et pas simplement à Paris. Il faut aussi aller peut-être plus loin et supprimer la hausse de la CSG. Il faut redonner l'argent qu'on a pris aux Français par ce matraquage fiscal qui a racketté ces petits retraités. Les Françaises et les Français, celles et ceux qui travaillent, celles et ceux qui se lèvent tous les matins et trouvent qu'à la fin du mois, ils ne gagnent pas assez parce qu'ils n'ont droit à rien, ils n'ont droit à aucune aide sociale et à la fin du mois se retrouvent à devoir tout payer sans jamais rien recevoir en retour. C'est à ces personnes-là, le jour où la droite et le centre seront capables de reparler au milieu populaire, aux aspirations populaires des Françaises et des Français, alors oui, nous pourrons à ce moment-là, justement, avancer et travailler.
Écoutez, très vite, j'aimerais qu'on parle du projet de loi immigration qui arrivera d'ici quelques mois.
Sur l'énergie, on a le bouclier énergie à 4%, on a les moins 30 centimes qui vont directement éviter les dépenses aux Français, on a supprimé les taxes d'habitation, ça a profité à tous les Français.
Sur la hausse de la CSG.
Non, et sur la hausse de la CSG, c'était aussi pour faire en sorte de pouvoir financer et les retraites et la dépendance qui est un tsunami budgétaire qui est devant nous.
Donc je crois qu'à un moment donné... Vous avez asphyxié les
retraités. Non, on n'a pas asphyxié les retraités. On a pris les retraites qu'au-dessus de 2000 euros par mois. On a, beaucoup de ceux qui étaient au-dessus de 2000 euros par mois ont bénéficié de l'exonération de la taxe d'habitation. Il faut prendre les choses dans leur ensemble. Justement, on a eu comme logique de contenir les dépenses de l'État, de faire en sorte de restaurer de la profitabilité des entreprises, de mettre de la souplesse dans le marché du travail et de faire en sorte que le travail paye mieux.
Mais donc, pour que le travail paye mieux, il faut diminuer la CSG pour augmenter les salaires, pour augmenter aussi le pouvoir d'achat des retraités qui sont asphyxiés.
Regardez ce qui s'est passé pendant le précédent mandat.
Comment vous entendez, justement,
à l'approche de la rentrée, sur lequel le paquet pouvoir d'achat sur lequel
justement faire face à l'inflation, faire face à la hausse des prix.
Le paquet pouvoir d'achat sur lequel vos camarades, entre guillemets, des députés, ont donné un accord pour finir, et pas que d'ailleurs. C'est justement parce qu'avec ces mesures, encore une fois, les 3,5% pour les fonctionnaires, la revalorisation des minima sociaux, les 4% sur la retraite, plus qui arrive en complément d'une hausse de 1,1 et avant une hausse de 1,8%. La suppression de la redevance télé, tout ça accompagné pour les collectivités de près de 600 millions d'euros pour pouvoir leur permettre d'assumer ces hausses. Tout ça, encore une fois, ça fait un paquet global de 20 milliards d'euros qui ira dans la poche des Français de façon à ce qu'ils puissent consommer et résister à cette inflation.
Le paquet pouvoir d'achat, ça c'était le premier gros morceau du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Il y en a un autre gros morceau qui s'annonce pour la rentrée, c'est ce fameux grand débat sur l'immigration proposé par Gérald Darmanin qui veut ce grand débat et donc qui reporte l'examen du projet de loi. C'était important d'en débattre avant Amine Elbaï.
Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que nous assistons encore une fois un renoncement de la part du gouvernement. On nous avait annoncé une loi et un débat sur l'asile et l'immigration à la rentrée. Et le gouvernement a annoncé d'ailleurs à l'insu de votre propre ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, que ce débat serait reporté au cours du mois de novembre. Alors nous, chez les Républicains, nous avons voulu être au plus proche des Françaises et des Français, au plus proche des attentes des Françaises et des Français, d'aller sonder aussi le cœur des Français. Et nous porterons une proposition de loi en première lecture au Sénat dès le mois de septembre. Et cette proposition de loi, elle sera portée par Bruno Retailleau pour faire en sorte que les attentes des Françaises et des Français soient enfin débattues au Parlement. Vous ne pouvez pas reporter cette question d'intérêt général, d'ordre national. Nous devons retrouver la maîtrise de nos frontières. Et nous ne pouvons plus accepter cette immigration incontrôlée. Nous devons mettre la même énergie, l'énergie de M. Darmanin à l'égard de ce prédicateur, M. Iquissen, doit être la même, elle doit être implacable à l'égard de tous les clandestins, de tous les immigrés illégaux qui, encore aujourd'hui, sont et constituent cet afflux massif dans nos frontières.
Guillaume Butet, vous allez être contraint par les LR. Hein, alors, comme pour le pouvoir d'achat, c'est pareil.
On va revenir les choses, prendre les choses une par une.
Écoutez bien ce que dit Amine
Elbaï. D'une part, sincèrement, ne confondons pas l'expulsion souhaitable qui devra intervenir d'un prédicateur sulfureux qui...
Le tribunal administratif de Paris rendra son avis à 14h
aujourd'hui. On verra bien ce qu'il dit, mais peut-être qu'on en reparlera plus tard. Qui profère des menaces antisémites, enfin bref, qui est dont le danger est absolu, et d'autres situations.
Qui a 150 000 abonnés sur YouTube et qui fait des prêches douteux sur les juifs, sur la République.
La question, c'est l'exécution des obligations de quitter le territoire.
Mais
il faut tenir un laissez-passer consulaire.
Laissez-moi terminer.
Et vous ne l'avez pas pour les plus... enfin les milliers de candidats.
Alors, j'aimerais bien pouvoir. Allez, d'une part, j'attends avec, j'irais presque appétit, la proposition de loi du Sénat. On va voir comment les LR résolvent toutes leurs contradictions en la matière, parce que là, en l'espèce, il y a quand même des positions très divergentes. Ensuite, voilà, on ne peut pas reprocher au gouvernement d'aller trop vite parfois et de concerter ensuite. C'est une concertation nécessaire, c'est un problème extrêmement sensible. Nous avons fait une loi de l'immigration sous le précédent quinquennat qui a permis déjà de réduire considérablement les délais d'instruction, par exemple, des statuts de réfugiés pour éviter que les gens puissent s'installer durablement sur le territoire. Il y a encore des choses à modifier. Gérald Darmanin veut être plus efficace sur les OQTR et enfin, donc les reconditions hors des frontières, et il a raison. Il veut être plus efficace dans le traitement des demandes de demandeurs d'asile, et il a raison. Donc maintenant, nous avons d'autres points à voir. Il faut qu'il y ait une concertation. Je ne vois pas quel est le sujet. Au contraire, qu'on puisse arriver. Laissez-moi terminer. Non, j'ai bien compris, mais je voudrais que là-dessus. Laissez-moi terminer juste ma phrase.
Il nous reste une minute.
Pour le coup, juste un point. Non, je voudrais que tu termines ma phrase véritablement. C'est que je pense que sur un sujet aussi sensible, si jamais nous pouvons bâtir des constats partagés, et si on veut bâtir dans l'arc républicain, et je parle de tout l'arc républicain, des consensus au nom de l'efficacité de l'action publique, je pense qu'il faut le faire. Et cette concertation, à cet égard, elle me paraît extrêmement bienvenue.
Monsieur, au-delà d'une concertation, il y a chaque année des lois qui sont votées par les députés et les sénateurs. Mais il y a aussi des mesures qui doivent être prises immédiatement par le ministère de l'Intérieur. Et notamment les exécutions des obligations de quitter le territoire français.
Près de 3 000 cette année, ça progresse chaque année.
Il faut obtenir un accord du pays étranger, un laissez-passer consulaire vous n'obtenez jamais.
J'ai oublié
mais
ça.
Nous, nous devons appliquer la réciprocité.
Et c'est pour ça que nous avons
pas de visa pour les pays étrangers si vous ne récupérez exactement pas vos clandestins.
Nous avons
vous
fait une tension très forte
sur le territoire
avec
national.
La Tunisie, le Maroc et l'Algérie, il y a un an là-dessus, et ça s'est amélioré.
Dans ma commune à Roubaix, comme partout sur le territoire national, de plus vous en savez, plus d'étrangers illégaux.
C'était Guillaume Mutet, député Renaissance, Amine Elbaï, orateur des Républicains. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. C'est ainsi que s'achève cette nouvelle édition d'Europe Midi. Merci à Benjamin Péter qui était à la réalisation, à la rédaction en chef, et Christophe Pierrot qui était à la réalisation. Bon week-end à toutes et à tous sur Europe 1.